Vaisselle offensive. Comme dans une équipe de hockey, il y a toujours les l'ailier droit, l'ailier gauche, et les deux défenseurs. Mais ce que Dieu montrait, c'était ses outils qu'il y a dans son coffre. Parce que les deux chérubins de gloire qui étaient sur le propitiatoire, qui étaient au-dessus de l'arche, c'est la gloire que Dieu veut manifester dans notre vie. C'est ce qu'il a prévu. C'est ce qui est dans son alliance. On va tourner dans Ésaïe chapitre 6, de versets 1 à 3. Il y a quelque chose de spécial avec ces deux, avec ces chérubins-là, qui étaient au nombre de 4 en passant. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera devant moi? Et je répondis: me voici, envoie-moi. C'est la même description qui est aussi en Apocalypse 4, versets 6 à 8. Apocalypse 4, le verset 6 à 8, ça dit: il y a encore devant le trône, c'est le même trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est la face d'un homme, et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Dans l'Apocalypse 4, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est la même description. Isaïe décrit ça comme des séraphins qui ont chacun 6 ailes. Jean, il parle des 4 êtres vivants qui ont chacun 6 ailes, qui sont devant le trône, qui disent Saint, Saint, Saint. Ézéchiel, tant qu'à lui, il va parler des chérubins. Mais c'est la même description, c'est les mêmes êtres vivants. C'est l'image des deux chérubins de gloire qui étaient au-dessus du propitiatoire et qui couvraient de leur ombre le propitiatoire et l'arche. Ces chérubins-là de gloire, ces êtres vivants, manifestent la gloire de Dieu et ils ont chacun 6 ailes. Puis le Seigneur me parlait des 6 ailes. Des 6 ailes, des ailes pour voler. A-I-L-S. Ces chérubins de gloire-là ont chacun 6 ailes. Et c'est l'image que, dans la présence de Dieu, quand on entre dans le Saint des Saints, la gloire de Dieu veut se manifester de 6 façons. Il y a 6 ailes que Dieu veut manifester pour nous. Et si vous remarquez, il y en a 4 qui servaient à couvrir le corps des chérubins, et 2 qui se servaient pour voler. Il y avait quatre ailes qui couvraient le corps des chérubins et deux qui se servaient pour voler. C'est la même chose pour nous. Dieu a préparé pour nous dans son plan glorieux. Il a préparé quatre armes protectrices. Quatre armes pour nous protéger. C'est dans son plan. C'est accompli en Jésus-Christ. Ce sont des ailes protectrices. C'est Christ, notre sagesse, Christ, notre justice, Christ, notre sanctification et Christ, notre rédemption. 1 Corinthiens 1, le verset 31. C'est les quatre ailes protectrices de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul parle. Il parle en Éphésiens chapitre 6 des armes du croyant. Il parle qu'il y a quatre armes défensive pour nous protéger.
Le verset que tu mentionnais avant, c'est 1 Corinthiens 1:30.
Parce qu'en Éphésiens chapitre 6, le verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez ça, que quand on rentre par le sang de l'agneau, on se retrouve en esprit assis dans les lieux célestes. Et là, il y a un combat dans les lieux célestes. Les chérubins de gloire combattent pour nous contre les esprits méchants. Là, il parle. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Puis là, il parle, versets 14 et 15, de quatre armes protectrices. La cuirasse de la justice, première arme protectrice, première aile que Dieu nous donne pour nous protéger, Christ notre justice. La cuirasse de la justice. Christ notre justice. Qui par son sang a pris la nature de péché qui nous tenait liés à la mort, qui nous emmenait vers la mort. Il a pris cette nature de péché-là. Il l'a portée. Il est mort à notre place. Et il nous a donné une nature de justice. Une nature comme la sienne. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a donné un nouvel esprit qui est sorti droit de son côté percé. Une nouvelle Ève. Nous sommes la nouvelle Église. Nous sommes la nouvelle Ève qui sort de son côté, qui reçoit la même nature que lui, parce que nous sommes sa côte. La côte qui a été prise à Adam était de la nature d'Adam. Avec cette côte, Dieu a fait Ève. Il a fait une femme. Il a fait l'épouse d'Adam. Puis Dieu a fait la même chose avec Jésus-Christ. Il a pris une côte de la nature même de Jésus-Christ, puis de cette côte, il a fait l'Église. Du côté percé de Jésus, il a fait l'Église. La mort, le sommeil de la mort est tombé sur Christ, le second Adam, et de cette côte percée est sortie l'Église que nous sommes. Et nous sommes exactement de la même nature que Jésus. La nature divine qui était en Jésus a été insufflé en nous. On a reçu un nouvel esprit. Christ, notre justice. Ça, c'est la première arme offensive. Christ a porté notre péché, notre nature de péché. Puis, parce qu'il a porté notre nature de péché, nous avons la première arme pour nous défendre contre l'ennemi. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. C'est le premier point. Hein, je mentionnais que dans le temple où Moïse était, que Dieu avait montré à Moïse, le premier point c'était l'autel. Ben, c'est ça, le premier point c'est l'autel. C'est par le sang de Jésus, Christ notre justice se manifeste là. La première aile se manifeste là. Parce que Jésus a payé, a pris notre péché, nous sommes libérés. Nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus des pécheurs devant Dieu. couverts par son sang, nous sommes des saints. Nous sommes justifiés. Nous sommes rendus saints devant Dieu. C'est là qu'on entre dans la deuxième arme. Nous sommes aussi sanctifiés. Christ, notre sanctification. Pourquoi sanctifié? Parce qu'il n'a pas rien pris notre nature de péché. Toutes les conséquences que le péché avait laissées dans notre vie, toutes les marques, toutes les traces que le péché avait laissées dans notre vie, Jésus-Christ les a portées. Il a porté la conséquence. Il a été châtié. Il a eu des coups de fouet sur lui à cause de nos transgressions. Puis parce qu'il a porté la conséquence du péché, nous sommes aussi libérés non seulement de la nature du péché, nous sommes libérés de toute la malédiction, les conséquences qui étaient la malédiction. Les conséquences de notre vie passée, c'était la malédiction, mais Jésus-Christ a été fait malédiction. On arrive au deuxième élément, la deuxième aile qui nous recouvre, Christ notre sanctification. Christ notre sanctification a pris les conséquences de notre péché. Il a porté la malédiction qui était sur nous. À cause de ça, on est devenu une bénédiction. C'est là qu'on arrive à cette deuxième arme que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Tu as la cuirasse de la justice. Ensuite, tu as le bouclier de la foi qui est là devant nous. Tu as la ceinture de vérité. Tu as le casque du salut. Tu as les quatre armes offensives qui est la cuirasse de justice qui couvre le corps. Tu as le bouclier de la foi pour éteindre les trains enflammés de l'ennemi. Tu as la ceinture de vérité. Puis tu as le casque du salut. Toutes ces armes-là sont en rapport avec ce que Jésus a fait à la croix. Ce sont les ailes protectrices de Dieu pour nous protéger contre l'ennemi. Une protection parfaite, totale. Un salut qui est pleinement assuré. Une assurance qui coupe tous les dommages. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Christ, notre sanctification, c'est que maintenant, nous avons une protection contre les traits enflammés de l'ennemi. La malédiction qui vient du diable n'est plus obligée de venir contre nous parce que Christ a porté cette malédiction-là. Il y a un bouclier devant nous qui est le bouclier de la foi. Ce bouclier-là, quand il arrive la malédiction, on peut le mettre puis dire, malédiction, tu n'as plus à entrer dans ma vie. Jésus-Christ a porté. C'est comme un miel de gloire qui vient sur nous et qui nous recouvre. C'est une sécurité, c'est une protection. Et c'est là qu'on arrive ensuite la troisième aile. Je passe vite là-dessus parce que j'ai déjà souvent parlé de Christ notre justice, Christ notre sanctification, Christ notre sagesse, Christ notre rédemption. Mais là, je fais juste le parallèle entre ces choses que j'ai déjà dit et les ailes du chérubin qui nous recouvre, les quatre ailes du chérubin qui nous recouvre, et le parallèle aussi entre les quatre armes défensives. Une arme défensive, c'est pour te défendre. Tandis qu'il y a deux armes qui vont être offensives. Offensives, ça veut dire, c'est pour aller, pour combattre, pour prendre possession des territoires. Ça, c'est des armes offensives, c'est des armes pour aller de l'avant. Mais les quatre premières armes sont défensives, c'est pour nous protéger personnellement, les nôtres, pour protéger les nôtres contre les attaques de l'ennemi. C'est ça la différence entre une arme défensive, c'est-à-dire que c'est une arme pour se défendre, et une arme offensive, c'est-à-dire une arme pour aller, pour prendre le territoire, pour prendre possession du pays. Et comme les Israélites qui marchaient dans le désert, à un moment donné, ils sont sortis du désert et ont commencé à faire des offensives dans le territoire d'ennemi. Ils ont commencé à prendre possession du territoire ennemi. Ça, c'était l'offensive de Dieu. Tandis qu'avant, les 40 années qui ont été dans le désert, là, Dieu était en train de les former à son image. Il était en train de, autrement dit, de les rendre semblables à lui, puis de faire des transformations à l'intérieur. C'était la protection de Dieu. Il était protégé. Il était dans la dimension protectrice de Dieu. C'est la même chose pour nous autres. Dieu, avant de nous envoyer sur le combat, il n'enverra pas un gamin sur le champ de bataille. Il n'enverra pas un bébé. Il va envoyer une personne adulte. Puis, avant de l'envoyer, il va y mettre une cuirasse de justice, c'est-à-dire une cuirasse toute en fer, que si l'épée arrivait dessus, l'épée tombait à terre parce que c'était en fer. Donc c'était indestructible. Puis il y avait un bouclier qui était lui aussi fait en fer. C'était un gros bouclier, ça gros, puis c'était une poignée. Là, si quelqu'un envoyait une flèche, ben, tu pouvais mettre le bouclier, te protéger. C'est toujours pour te protéger des attaques d'ennemis. Mais on va voir qu'à la fin, c'est plus pour se protéger. C'est pour aller détruire l'ennemi. C'est pour aller prendre possession. C'est nous autres qui attaquons l'ennemi. C'est ça que ça veut dire offensif. Ça veut dire que c'est, on change. À la place de se défendre, on commence à attaquer. Puis on commence à aller chercher des armes. On commence à aller chercher des gens pour Jésus. C'est des armes offensives. C'est ça, la troisième arme défensive pour se protéger. Christ, notre sagesse. Christ, notre sagesse. Christ a pourvu. Il a enlevé la loi. Christ, notre sagesse, c'est cette loi qui nous condamnait, cette loi qui nous menait à la mort, qui était la puissance du péché. Jésus a enlevé, a le cloué à la croix, cette loi, et il nous a donné son esprit, même pour prendre soin de nous. Son Saint-Esprit est notre sagesse. Son Saint-Esprit est notre mère qui va nous consoler, qui va nous garder en lui. Ça, c'est la ceinture de vérité qui va toujours nous conduire dans la vérité. C'est l'esprit de vérité qui nous conduit toujours dans la vérité, dans le plan que Dieu a tracé pour nous. Parce que Dieu, maintenant, a un avenir. Avant, on n'avait pas d'avenir. Avant, c'était la perdition. Avant, c'était la mort. Le péché entraîne la mort. Mais Jésus, en enlevant le péché, en enlevant les conséquences du péché, il a enlevé aussi le plan qui était contre nous, qui était la loi, parce que c'était la loi qui se passait contre nous et qui nous condamnait. Là, il a changé ça. Il a mis une loi vivante, la loi de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous montre le chemin. C'est le Saint-Esprit lui-même. On n'est plus à soumettre à des règles strictes. On a à se soumettre au Saint-Esprit. Parce que lui, il va nous montrer quoi faire, comment agir. Parce que c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. C'est là qu'on se sent de la ceinture de vérité. Pourquoi tu mets une ceinture? Pour garder tes outils, ton équipement, de garder ça tout ensemble. Qui tombe pas à terre. C'est ça une ceinture. C'est pour lier l'ensemble puis faire un tout. Puis c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il nous met tout ça ensemble puis il nous montre comment utiliser nos âmes, comment s'équiper, dans quelle voie marcher. Il nous montre son plan, il nous montre son dessein. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous lie ensemble, même entre croyants. C'est le Saint-Esprit qui nous lie ensemble, même entre croyants. Ça, c'est c'est la troisième aile du chérubin de gloire. C'est la troisième aile qui va nous protéger. Et enfin, la quatrième aile est Christ, notre rédemption. Christ qui rachète le pouvoir du diable, qui nous met directement sous son pouvoir à lui. Nous ne sommes plus destinés à la colère, nous sommes destinés au salut, à l'acquisition parfaite et complète de tout plan rédempteur que Jésus a pour nous autres. Parce que Dieu, à la croix, a manifesté un plan de rédemption complet. Puis c'est ça, ce plan de rédemption-là prévoit qu'à un moment donné, le diable va être à jamais lié et enlevé de la terre. Présentement, on ne le voit pas complètement, mais on peut le voir dans notre vie. À mesure qu'on marche avec Jésus, on peut voir l'ennemi est obligé de s'enlever, retirer ses pattes sales, nous libérer le territoire devant nous. Puis c'est ça, pour ça c'est le casque du salut. On met ça par-dessus notre tête parce que c'est une protection, c'est la promesse continuelle que nous avons la victoire sur le diable. Même si on le voit pas toujours avec nos yeux, même si on voit l'ennemi faire encore plein de ravages autour de nous autres, on met ça sur notre tête parce qu'on sait, c'est le casque de l'espérance du salut. On sait, notre espoir est ferme, nous allons avoir la victoire. Le salut va se manifester complètement, même si on le voit pas tout de suite là. On met ce casque-là sur la tête C'est une protection pour nos pensées. Oui, nous allons avoir la victoire. C'est une espérance vivante. Le diable est vaincu à la croix. Et il va être obligé de débarrasser le terrain complètement. Ça, c'est la quatrième aile protectrice. Le casque du salut. Parce que ça tourne, c'est sur notre tête, puis ça nous cache. S'il y a quelque chose, quelqu'un envoyait une roche, hein, si le diable peut envoyer une roche contre nous, ben le casque va nous protéger notre tête, parce que la tête, c'est la place la plus sensible, la plus délicate de notre corps. Puis si le diable réussit à atteindre notre tête, ben on est fait. C'est pour ça que notre tête est si importante. C'est pour ça que le casque du salut, cette arme-là, c'est l'espérance. On sait que peu importe ce qu'on voit, on sait qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder aux choses visibles, comme l'apôtre Paul dit. On n'a pas à regarder aux problèmes, aux situations difficiles, à toutes les choses qui peuvent arriver, que l'ennemi peut envoyer. On n'a pas à regarder ça, on a à regarder plus haut, à la victoire qui a déjà été acquise à la croix. Puis on a à se tenir sur cette espérance qu'on a. Jésus est avec nous, Jésus marche avec nous, puis il va nous donner la victoire. C'est l'espérance ferme qu'on a. C'est la quatrième âme protectrice qui fait comme une complète protection autour de nous autres. Avec ces quatre âmes-là, on a la base du salut, les fondements. Les fondements de ce que Jésus a accompli à la croix. Les chérubins de gloire viennent, quand on se tient sur le propitiatoire, les chérubins de gloire viennent manifester premièrement ces armes-là qui nous protègent, qui nous réchauffent. Parce que ce sont des ailes. C'est comme une poule qui a des ailes. Les petits poussins vont aller se réchauffer en dessous des ailes. Les ailes, quand on parle de protection, c'est pour se réchauffer. C'est pour avoir de la chaleur, c'est pour avoir de la protection. Mais il y a deux ailes. Les chérubins de gloire avaient deux ailes supplémentaires qui n'étaient pas là, eux autres, pour protéger, mais qui étaient là pour aller de l'avant. C'est des ailes pour aller dans le territoire de l'ennemi puis faire des ravages à notre tour. On n'est pas juste toujours sur la défensive puis l'ennemi nous attaque, puis on se défend. Il n'y a pas juste ça dans la vie chrétienne. Il y a aussi le temps où Dieu a prévu que c'est nous autres qui vont contre le diable. Puis c'est nous autres qui s'emparent des territoires de l'ennemi. C'est nous autres qui s'emparent des armes. C'est nous autres qui guérit les malades. C'est nous autres qui chasse les démons. Ça, c'est dans le plan de Dieu aussi. Parce que Dieu a prévu les deux ailes de gloire. Ce sont ces ailes à lui qui vont nous aider à prendre possession du territoire. Ça ne se fait pas par notre force. Toutes les quatre ailes protectrices, la protection que Dieu nous donne, c'est nullement par notre force. C'est pure grâce. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Ben, dans ce qu'il a accompli à la croix, il a aussi prévu des ailes de gloire, la puissance du Saint-Esprit, pour nous aider à aller de l'avant. Quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les mains nues ». Non, il a prévu des armes offensives, des armes de guerre pour aller de l'avant. Puis on le voit dans Éphésiens 6, ce sont les deux armes de guerre, c'est quoi? L'épée de l'esprit, un épée, là tu vas de l'avant. Quand tu as une épée, tu vas tuer l'ennemi. Tu vas détruire ses œuvres. Ça, c'est l'épée de l'esprit. Et la sixième arme, qui est elle aussi offensive, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Les souliers de zèle pour aller annoncer l'évangile. Parce que l'arme offensive, c'est pour aller annoncer l'évangile. C'est pour aller prendre du territoire. Ce sont les deux dernière zèle que Dieu prouve pour nous en tant que croyants. L'épée de l'esprit. Hein, la parole juste de l'esprit pour dire hors d'ici, diable, c'est ton œuvre. Bon, avec l'épée de l'esprit, tu peux dire ça, c'est l'œuvre du diable. Va-t'en, Satan. Ça détruit l'œuvre de l'ennemi. Tu entres en plein dans le centre, dans le cœur de l'œuvre de l'ennemi, puis tu le détruis. Parce qu'il a été vaincu à la croix. C'est ça qu'on voit aussi. J'avais une belle image dans Josué. Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Ok, les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans le territoire promis. Il était en train de commencer leur guerre, leur offensive contre l'ennemi. C'était le début de leur offensive. Mais Dieu était dans la place. Dieu les avait devancés. On dit, on voit ici, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Josué a dit ça à l'ange qui se tenait devant lui, ou le personnage divin qui se tenait devant lui. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Remarquez, l'ange qui était là, l'ange de gloire qui était là, on ne sait pas si c'est Jésus ou si c'était un ange de gloire ou si c'était un chef de gloire. Quoi. Le personnage qui était devant lui avait une épée nue. L'épée de l'esprit. Quand c'est le temps de prendre le territoire de l'ennemi, Dieu pourvoit ces deux armes offensives. Qui est l'épée de l'esprit. Puis ensuite, il a dit, ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi ôte tes souliers de tes pieds? Parce que moi, je vais pourvoir mes propres souliers. J'ai mon propre zèle, pas ton zèle à toi, pas ton petit zèle à toi pour annoncer l'Évangile, ton petit zèle humain comme on ferait de la publicité. Ça, c'est le zèle humain pour annoncer l'Évangile, comme quelqu'un ferait de la publicité qui donnerait des pamphlets. Ça, c'est le zèle humain pour annoncer l'Évangile. Mais il y a le zèle divin. Si Dieu a dit « ôte tes souliers », ça veut dire « là, là, c'est moi qui entre dans la place. C'est mes souliers à moi, mes gros sabots qui entrent dans la place. C'est moi qui vais faire le chemin. » On le voit, quand Jésus a envoyé ses disciples, il les a envoyés avec ses souliers à lui. Il dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, annoncez l'Évangile. Il n'y a pas rien qui dit, vous allez aller passer des pamphlets. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il les a envoyés avec la puissance de guérir les malades. C'est bien écrit, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute infirmité parmi le peuple. Ça, c'est le zèle que donne l'Évangile de paix. C'est les souliers de gloire. C'est les deux ailes de gloire que Dieu a prévues, a pourvues pour nous, ses enfants. Les chérubins de gloire, ses ailes pour aller à la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit « Allez, faites toute une nation des disciples », il leur a aussi dit « Attendez ». À Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Il leur a dit, allez, puis en même temps, il dit, attendez un petit peu, allez, mais attendez un petit peu, parce que vous avez besoin d'avoir ces deux armes offensives-là. C'est pas vous autres qui allez annoncer l'Évangile partout. C'est ma puissance qui va agir au travers de vous. Vous allez collaborer avec moi, mais ça va être ma puissance qui va agir au travers de vous. Puis quand la puissance de Saint-Esprit est venue sur vous autres, ceux qui ont commencé, le Saint-Esprit s'est répandu, le Saint-Esprit a démontré sa parole, les signes de prodiges sont accomplis, et l'Évangile s'est répandu partout. Parce que c'est la manière que Dieu répand son Évangile. L'apôtre Paul va dire, il dit, votre foi n'a pas été basée sur la sagesse des hommes, mais votre foi a été basée sur la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'on peut annoncer l'Évangile. Ce sont les armes offensives que Dieu a pourvues pour nous. Prendre possession du territoire. C'est ça les ailes offensives de Dieu qui ont été aussi pourvues à la croix. C'est pour ça qu'il faut apprendre à demeurer dans ce lieu très saint, dans le lieu très saint, le lieu secret avec Dieu, sous le propitiatoire, dans l'arche. Apprendre à demeurer dans ce lieu-là dans une attitude d'adoration constante devant Dieu, de louange perpétuelle devant Dieu, sachant que toute chose concourt à notre bien, parce que on est complètement pourvu à toute chose. Il faut d'abord être affermi en lui, enraciné en lui, comme disait l'apôtre Paul. Il faut être comme un poussin qui va sous la poule, puis qui apprend à connaître la puissance de protection. Mais il faut apprendre à connaître la puissance de protection qu'on a en lui sous son sang. Puis une fois qu'on est armé, qu'on est protégé, qu'on a la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, qu'on a la ceinture de vérité, le casque du salut, ben là, Dieu peut aussi pourvoir à l'épée de l'esprit, puis du zèle, le zèle que donne l'évangile de paix, pour aller avec sa gloire, avec ses ailes de gloire, et manifester au monde entier son évangile tel qu'elle a été pourvue, tel qu'elle a été annoncée, tel qu'elle a été donnée. Parce que c'est à nous autres, c'est notre héritage, c'est pour nous. Le tabernacle que Moïse avait construit, toutes les étapes dans lesquelles il fallait cheminer pour entrer dans le lieu très saint, tout ça s'est accompli en Jésus-Christ. C'était juste une image, mais tout ça, la réalité glorieuse, c'était Jésus-Christ, c'était le croyant, le chrétien aujourd'hui. On peut vivre ces choses-là et apprendre à demeurer sous le propitiatoire. C'est à nous. Les ailes du chérubin de gloire, c'était juste une représentation qu'il y avait. Hein, il faisait un gros chérubin immense sous un petit coffre d'arche. Puis là, il avait mis un couvercle qui était le propitiatoire, qui était là où le sang était aspergé. Mais les ailes des chérubins de gloire couvraient toute la maison. La maison était 20 pieds par 20 pieds. C'était une très grande maison. Les ailes étaient à la grandeur de la maison. Tout ce qu'ils voyaient, c'était les ailes. Mais nous, quand on demeure sous le sang, tout ce qu'on voit, c'est les ailes. Parce qu'on est protégé par les quatre ailes des chérubins à tout niveau. Puis quand il s'agit d'aller, on a encore deux ailes à côté de nous autres pour battre l'air, pour battre la puissance de l'air, puis frayer le chemin de nous autres. Parce que les ailes, c'est ça, c'est le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. Mais les ailes du chérubin de gloire, quand les ailes du chérubin de gloire passent dans la place, Satan, il se tasse parce qu'il n'y a pas de pouvoir pour résister à la gloire de Dieu. Il est obligé de éclairer la place, porté par ses ailes de gloire, pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre autour de nous autres. Puis je crois que c'est là qu'on est rendu, c'est apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que lui, il va nous apprendre à marcher dans sa gloire. Il va nous apprendre à combattre avec ses armes de gloire. Puis c'est ça qu'il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer pour ça. Parce qu'il y a un plan. C'est comme Josué. Hein, Josué se préparait. Dieu l'a préparé à aller envahir le territoire de l'ennemi. Là, il se présentait devant la première ville qu'il avait à vaincre, qui était Jéricho. Puis là, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Il suivait les instructions, pas à pas. Ça dit que la nuée de gloire reposait constamment sur l'arche. Puis les enfants d'Israël suivaient l'arche. Si la nuée de gloire se levait dessus l'arche, ben, qu'elle s'en allait, ben, les enfants d'Israël partaient, ils suivaient l'arche. Ils suivaient pas seulement l'arche, ils suivaient la nuée de gloire. Mais nous autres, c'est la même chose. La nuée de gloire, il faut apprendre à demeurer dessous. Puis quand la nuée de gloire avance, ben, on peut avancer derrière elle. Mais cette nuée de gloire-là, quand le temps est opportun, c'est ça, l'épée de l'Esprit nous est donnée et le zèle de Dieu est accordé. Le divin chef, comme on voit dans Josué 13, le chef de l'armée des cieux arrive dans le décor. Quand le chef de l'armée des cieux arrive, ça veut dire que Dieu est avec nous. Puis là, c'est la victoire qui est assurée. Mais on voit ça même dans Josué chapitre 5, verset 13. On voit que juste avant que le divin chef est arrivé, que cet ange-là ou ce personnage céleste-là est arrivé dans la place pour combattre pour Josué, on voit que Dieu a ordonné deux choses à Josué. Josué, c'était 5, verset 3. Au verset 2, c'est-à-dire Josué 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arala. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans les déserts pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. Mm-hmm. C'est une image. Il fallait que le sang soit répandu. La circoncision, il fallait que le sang soit répandu. C'était pour les Israélites, l'alliance avec Dieu se faisait par la circoncision, quand le sang était répandu. Mais nous, spirituellement, en Jésus-Christ, c'est la même chose. Jésus-Christ a dit dans Colossiens 2, 11, que Jésus nous a circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. C'est la circoncision de Dieu. La circoncision, il a coupé l'esprit corrompu qui était attaché au péché, la vieille nature de péché, le corps de péché. Il a coupé ça, puis a enlevé ça, puis a jeté selon lui. Ça, c'est sa circoncision qu'il a fait à la croix. Quand Dieu a demandé à Josué « circoncis de nouveau les enfants d'Israël », c'est pour leur montrer à quel point que si vous voulez aller de l'avant maintenant, assurez-vous d'être bien protégé. Assurez-vous d'avoir les quatre fondements, les quatre armes protectrices, les quatre ailes protectrices de Dieu. Assurez-vous que Christ soit votre justice, que Christ soit votre justice. Assurez-vous que Christ soit votre sanctification. Assurez-vous que Christ soit votre sagesse. Assurez-vous que Christ seul soit votre rédemption. Trouvez en lui tout votre refuge. Sous son sang. Toujours sous le sang. C'est toujours le sang de l'agneau qui est notre certitude, notre assurance, notre protection. Puis Dieu devait le rappeler aux enfants d'Israël avant d'aller avec eux. Puis là, ça dit qu'il y a des circoncis. Il n'y a pas rien que ça. Au verset 9, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » L'opprobre de l'Égypte. La circoncision faisait que l'opprobre de l'Égypte, la honte, l'Égypte, c'est le monde. Toute la honte que le monde essaie de mettre sur vous, tout ça s'est enlevé à cause du sang. Toutes les accusations que l'ennemi, que les gens du monde essaient de mettre contre vous, tout ça s'est roulé. La circoncision, on coupait le prépuce et il se roulait. Mais c'est ça, c'était. La honte était roulée loin de nous, jetée loin de nous. La honte du péché et la honte de tout ce que le monde a apporté dans notre vie. On est pardonné de tout le passé et présentement je vis sous la grâce de Dieu. Il y en a plus en plus. Ça dit au verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines du Jéricho. Au verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Ça faisait 40 ans et là, ils ont mangé la Pâque. La Pâque, c'était Christ notre Pâque qui immolé pour nous. C'est une image encore. Christ notre Pâque immolé pour nous. C'est à cause de lui qu'on peut entrer dans l'offensive de Dieu. C'est quand on mange Christ crucifié, qu'on mange la Pâque, qu'on boit son sang, on mange sa chair, qu'on devient un avec Christ crucifié. C'est seulement à cette condition-là que ses ailes de gloire peuvent nous être accordées. Puis devenir un avec lui, ben, il y a toujours les deux aspects. Il y a l'aspect qu'on se réchauffe sous lui, puis l'aspect qu'on marche avec lui. Parce que la croix, c'est ce que Jésus a fait pour nous, mais c'est aussi ce que nous sommes appelés à faire avec lui. Nous sommes appelés aussi à porter notre croix tous les jours. Nous sommes appelés à le suivre constamment tous les jours, à marcher comme il a marché. Ça, c'est à tous les jours, c'est les deux aspects. C'est un aspect plus intérieur, c'est ce que Jésus a fait pour nous, mais c'est aussi un aspect extérieur. C'est un aspect que, oui, il faut aussi porter notre croix, il faut le suivre, il faut mourir à nous autres mêmes pour laisser Christ être notre vie entièrement et ne plus vivre pour soi-même, vivre pour Christ. Il y a ce double aspect-là qui fait que en lui, nous sommes complètement pourvus pour marcher dans sa gloire. Marcher sous sa gloire, sous ses chérubins de gloire. Amen. C'est ça les ailes offensives de Dieu. C'est ça que Dieu me montrait qu'il est en train de nous faire entrer là-dedans. Il y a un combat devant nous, il y a une terre à prendre possession, mais on a besoin de sa puissance, on a besoin de son, qu'il soit lui-même devant nous, qu'il marche devant nous. Puis c'est ça qu'il veut nous montrer. C'est là où nous sommes rendus. C'est pour ça que, pour l'instant, on ne voit pas encore sa gloire, mais c'est comme si Dieu dit, apprenez à rester là, apprenez à rester sous pour que ce soit... Puis moi, je vais vous montrer à manier, comme David disait dans les psaumes, il dit, c'est lui l'Éternel qui m'apprend à manier l'épée. Il savait que c'était Dieu qui l'apprenait à manier l'épée, à manier l'arc. Et c'est l'Éternel qui exerce mes mains au combat. C'est Dieu qui l'exerçait à être offensif avec lui. Puis c'est la même chose, Dieu va faire la même chose avec nous. On a une part à faire, une collaboration, mais c'est lui qui marche devant nous. Mais il faut le suivre, il faut accepter de marcher, de le suivre à sa suite. Et oui, il va y avoir certaines souffrances, parce que dans le combat, on peut être blessé. Sa puissance va s'accomplir au travers de notre faiblesse. Constamment, la puissance de Dieu va se manifester dans des situations de faiblesse, dans des situations où on va être outragé, qu'on va être méprisé, qu'on va être persécuté. Mais c'est dans ces situations-là, la gloire de Dieu va se manifester. Dans ces situations de faiblesse, Dieu va manifester sa gloire. Et il va prouver qu'il est avec nous. Mais c'est ça, il y a toute une attitude de cœur qui plaît à Dieu, une attitude d'humilité, une attitude de persévérance en sa présence, de persévérer dans l'adoration, puis de continuer à louer Dieu même dans les épreuves, dans les situations difficiles, quand les gens ne nous aiment pas, les gens nous persécutent, continuer à remercier Dieu et à marcher avec lui, parce qu'il est avec nous. Et il va être fidèle. Comme il est fidèle à nous protéger, il va être aussi fidèle à marcher avec nous, à manifester ses ailes de gloire pour qu'on puisse prendre possession du territoire.